Essentiel. Bien plus que de la radio.
L'actu parle, Sophie et Lauriane.
7 Français sur 10 rêvent de changer de vie d'après un sondage Opinionway, mais de là à franchir le pas, Lauriane.
Il faut dire que les obstacles peuvent être très nombreux, alors bon plan ou galère assurée, on en parle Sophie avec notre invité du jour.
Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
Véronique Zara, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes aujourd'hui professeur de lettres, mais ça n'a pas toujours été le cas. On va justement en parler. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous dans les studios d'Essentiel Radio.
Merci à vous de me recevoir.
C'est avec grand plaisir. Alors, on l'a dit en intro, 7 Français sur 10 rêvent de changer de vie, d'après un sondage Opinionway. On a, nous aussi, hein, Sophie, voulu mener notre petite enquête. Je vous propose d'écouter les quelques réactions recueillies et puis on vous laisse réagir derrière.
Oui, parce que en fait, tout simplement, je ne crois plus au système actuel, en fait, voilà. Et je pense qu'il est arrivé en bout de course et que c'est vrai que ça devient anxiogène de vivre, notamment dans des grandes villes comme ça. Donc, voilà, je me pose la question tous les jours.
Je change assez souvent de métier. Là, je suis maintenant auteur, où j'écris des livres de contes de fées pour enfants. Et apparemment, ça se passe assez bien. Et je suis assez contente de moi.
C'est compliqué comme question. Je sais pas, pour avoir du nouveau dans la vie.
Oui, ça m'arrive, oui. L'envie de changement, simplement. On va dire, je sais pas trop, après, voir autre chose, quoi. Simplement, changer d'air.
Tout à fait. Pour que ce soit mieux ailleurs.
Alors Véronique, une réaction à ce qu'on vient d'entendre ?
Je pense qu'effectivement, beaucoup de gens aujourd'hui désirent du changement dans leur vie. Alors que ce soit, je crois, on a entendu parler de quitter la ville pour aller ailleurs, donc des changements de lieu et aussi des changements ou de métier ou d'entreprise pour diverses raisons.
Alors, en ce qui vous concerne, Véronique, à la base, vous avez fait des études juridiques, c'est ça ?
Oui, tout à fait, j'ai un DUT.
Oui, et pourquoi ce choix ? Est-ce que c'était une vocation pour vous ?
C'était un peu par défaut. En fait, j'aurais préféré faire des études pour être documentaliste, mais j'avais fait un drôle de choix. Je faisais allemand première langue et ça leur avait pas forcément convenu. Il fallait mieux maîtriser l'anglais. Donc, du coup, en face, il y avait l'IUT, carrière juridique et judiciaire. Et j'ai réussi les tests facilement, donc je suis allée là, mais un peu effectivement par défaut. Mais aussi le côté social de la chose m'intéressait, éventuellement travailler chez les avocats, ça aurait pu m'intéresser avec ce volet-là.
Un choix par défaut, mais est-ce que ça vous a plu au final ? Est-ce que vous avez pu trouver votre place quand vous y étiez ?
Les études m'ont relativement plu. Droit civil, droit constitutionnel, c'est très bien. Après, il y a d'autres choses qui étaient différentes. J'aimais l'histoire aussi, donc le droit constitutionnel, là, était intéressant pour moi. Mais c'était pas la folie. J'ai réussi, mais voilà, sans plus.
Alors, changer de vie, plus facile à dire qu'à faire. Quels sont les obstacles qui nous y empêchent ? On écoute quelques réactions recueillies dans notre micro-trottoir.
Les codes, la famille, l'ancrage ? La trouille.
Et on va dire les contraintes sociales, hein, famille, tout ça, qui n'ont pas forcément la même perception des choses, notamment de l'avenir, et qui restent dans leur confort en pensant que cela, enfin leur style de vie va rester.
Alors là, ça, je sais pas. Hein, c'est chaque personne a sa motivation. Hein, et moi, ma motivation, bah, c'était d'écrire, et j'ai tout quitté pour me lancer dans ce projet.
Bref. Les contraintes professionnelles quand même, après les contraintes familiales aussi, parce qu'on n'est pas tout seul. Et puis l'envie, puis l'envie passe, quoi. Donc c'est un projet qu'on met de côté, quoi.
Bah, soit le temps, soit l'argent, soit, je sais pas, le milieu social où on est.
Alors Véronique, je vous ai vu acquiescer pendant ce micro-trottoir, les contraintes familiales, la trouille, hein, on a entendu plein de choses. Vous nous disiez en préparant cette interview que vous auriez toujours aimé être prof finalement, c'était un peu dans votre cœur. Pourquoi vous n'êtes pas lancé dans ces études-là tout de suite finalement ?
La situation familiale, donc on a entendu, faisait que je ne pouvais pas me lancer dans des études longues. Donc c'est pour ça que j'ai choisi un DUT, parce que j'avais quand même des compétences. Hein, on est dans les années 80 quand même, donc tout le monde n'allait pas jusqu'au bac ou au-delà du bac. Donc déjà pour moi, c'était un aboutissement de réussir des études. Donc il y avait ça, et aussi les lois n'étaient pas forcément les mêmes en ce qui concerne le métier d'enseignant en particulier. Dans un premier temps, il fallait niveau bac, ensuite bac plus 2, bac plus 3, etc. Et moi, à chaque fois, j'avais un train de retard, quoi. Donc, c'est ça qui était un peu embêtant, on va dire. Mais oui, les enfants, c'est quelque chose qui toujours m'a attirée.
Alors, en parlant d'enfants, On peut dire que vous êtes, il y a eu un grand changement dans votre vie puisque vous êtes devenue maman vous-même. Vous avez eu combien d'enfants ?
Trois enfants.
Vous avez arrêté de travailler, c'est ça, pendant une longue période ?
Oui, donc je les ai élevés, oui, j'ai arrêté de travailler et j'ai repris pied dans la vie active quand ma fille avait 3 ans, qu'elle était scolarisée. Et là, j'ai fait de l'animation périscolaire. Donc ça me permettait d'être avec eux pendant les vacances et aussi de pouvoir quand même m'en occuper un peu en parallèle.
Est-ce qu'avant vous pensiez que c'était le fait d'être maman, c'était difficilement conciliable avec le fait d'avoir une activité professionnelle ?
Oui, c'était voilà, c'est un choix, c'est une question de choix. Mmh. Et mon choix, c'était d'élever mes enfants, sans pour autant penser que des mamans qui travaillent en ayant des enfants, c'est mal. Mais mon choix, c'était celui-là.
Et alors, vous nous l'avez dit, vous avez retrouvé une activité salariale au bout de 3 ans, c'est ça ?
Alors plus que 3 ans, en fait, c'est 3 ans de ma fille, donc ça fait en fait 8 ans.
8 ans sans travailler. Voilà. Et est-ce que ça a été dur de retrouver un travail par la suite ?
Non, pas vraiment, parce que justement, j'avais quand même un cursus scolaire qui m'a permis d'en trouver. Donc, avant d'avoir mes enfants, j'ai travaillé aussi un peu. Donc, j'ai été second clerc chez les avocats, donc en lien avec mes études. Donc, c'était tout ça, c'était des contrats à durée déterminée. Je travaillais dans des entreprises diverses et variées. À 16 ans, je travaillais dans une société d'HLM, des choses comme ça. Donc, c'est sur le côté administratif. Voilà, j'ai une capacité d'adaptation, paraît-il, assez intéressante. Donc, heureusement, parce que j'ai fait beaucoup de, finalement, aussi de petits boulots avant d'avoir enfin un CDI, mais à 40 ans.
On va y revenir.
Alors, Véronique, vous nous avez dit qu'après les 3 ans de votre fille, vous avez fait de l'animation périscolaire, c'est bien ça. Pourquoi ne pas être repartie vers un emploi dans le juridique, votre domaine d'études à la base ?
Déjà parce que c'était conciliable avec la vie de famille. J'avais quand même 3 enfants en bas âge. Hein. Quand la dernière est née, l'aînée avait à peine 5 ans, donc ils étaient rapprochés. Donc l'intérêt, c'était de pouvoir aussi être avec eux, comme je disais tout à l'heure, pendant les vacances scolaires, des choses comme ça. Et aussi à cause de ce lien privilégié que j'avais avec les enfants et ce rapport toujours intéressant de la transmission et d'être utile aussi. En particulier aux enfants.
Une manière pour vous, Véronique, de vous rapprocher de ce que vous aviez toujours souhaité, finalement.
Oui, c'est ça. Et puis bon, j'ai eu la chance, parce que c'est pas le cas de tous les animateurs périscolaires, d'avoir des enseignantes qui m'ont intégrée dans certains de leurs projets. Et donc, ça a effectivement confirmé les choses. Et dans ce cadre-là, j'ai fait aussi un atelier d'écriture avec les enfants et qui était très enrichissant pour moi.
Alors également, dans votre parcours, on a relevé que vous avez travaillé au CIDF, le Centre d'information sur les droits des femmes. Une expérience forte, on imagine ?
Oui, c'est ça. Donc, Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, ce qui a été rajouté par la suite, parce que c'est pas uniquement une association féministe, même si elle l'est à la base. Et oui, donc je suis rentrée dans cette association après être passée par d'autres expériences, mais c'est la plus forte puisque c'est enfin là que j'ai eu un CDI et j'ai travaillé là 10 années. C'était enrichissant à plusieurs titres. Même si je faisais pas du droit, je travaillais quand même en lien avec des juristes. J'étais aussi accueillante, mais dans le sens premier accueil, hein, comme si quand vous allez chez le médecin, quelqu'un répond au téléphone et vous accueille.
Direct.
Donc c'était le premier contact, souvent avec des femmes victimes de violences conjugales, auxquelles il fallait donner un rendez-vous, trouver un lieu où elles allaient être reçues, et aussi parfois qu'il fallait calmer, orienter, parce qu'on n'avait pas toujours les personnes adéquates à nos côtés, à qui on pouvait les passer. Et c'était un sentiment quand même d'être utile aussi, hein, bien sûr, parce que quelque part, on volait à leur secours. Il y avait ce volet femmes victimes de violences conjugales, mais aussi un volet formation, plus destiné vers les femmes. Mais les juristes recevaient également les messieurs, bien sûr, parce qu'il y avait du droit de la famille, principalement du droit de la famille, ils étaient concernés aussi.
Alors, les changements dans la vie ne sont pas toujours un choix et parfois ils s'imposent à nous. Véronique, vous allez être licenciée pour des raisons économiques. Vous aviez alors 50 ans. Est-ce que ce n'est pas un peu déstabilisant à ce moment-là ?
Non, parce que le licenciement, en fait, on avait une baisse de subvention et il y avait possibilité d'être volontaire. Et en fait, moi, j'ai été volontaire pour partir. c'était pas forcément le choix, le premier choix de ma direction. Hein. Je suis toujours amie avec mon ancienne directrice. C'était un choix volontaire parce que justement j'avais ce projet qui était toujours là, latent, de devenir professeur. Toute ma vie, je disais, ben j'aurais bien été ou prof d'histoire, mais j'étais pas une grande fan de la géographie, donc il aurait fallu quand même faire les deux, ou prof de français. Et donc c'est là que je me suis tournée.
On va y revenir tout de suite, mais avant, on s'interroge. Un changement de vie, de carrière, est-ce qu'on peut se le permettre à tout moment? Est-ce qu'il y a des moments opportuns ou alors parfois c'est carrément trop tard? On écoute quelques réactions.
Trop tard, non, ça les... tout dépend de quel type de vie on rêve, mais il y a un moment où la réalité rattrape on va dire, la fiction dans laquelle on est, en fait. Hein. Et non, je pense qu'il n'est jamais trop tard. Mais...
Ah bah oui, il faut y croire, hein. Si on n'a pas de rêve, s'il n'y a pas ça, bah, on ne fait rien. Donc non, il faut y croire et pourquoi pas. Il hein. Faut avancer. Hein.
Je ne dirais pas qu'il y a un moment opportun, mais non, je pense que c'est jamais trop tard.
Je crois qu'il faut prendre le moment opportun et c'est jamais trop tard.
Alors le moment opportun, on peut dire que vous l'avez saisi avec ce licenciement économique. Le moyen pour vous d'accomplir un vieux rêve, on a deviné duquel il s'agit, l'enseignement. Alors pourquoi ce moment-là et puis surtout dans une période où le système éducatif est très critiqué?
Oui, certes, le système éducatif est très critiqué, mais pourquoi à ce moment-là? Parce qu'à l'époque, il y avait un président de la République qui avait mis l'accent sur l'enseignement, le recrutement des enseignants. Donc on est en 2016 lorsque je quitte le CIDF. Et ma réflexion, c'était, faut que tu réussisses le CAPES en 2017 ou jamais, parce qu'après, il y aura probablement un changement. C'est pas dit qu'on l'embauche de la même manière. Donc je suis partie un peu avec finalement cette conviction-là, où ça passe ou ça casse. Bon, c'est passé. J'ai été aussi très soutenue par mes enfants. J'ai deux enfants qui ont commencé dans l'enseignement en même temps que moi. L'une comme contractuelle vacataire et l'autre en lettres et en philosophie. Et j'ai été à la fois soutenue et briefée par mon fils qui m'a un peu aidée.
Vous avez passé le concours en même temps, c'est ça ?
C'est ça, on a passé en fait deux concours ensemble. Lui, il a réussi le concours de l'enseignement agricole, donc ce qui lui permet d'être professeur de philosophie parce qu'il a fait des études de philosophie quand même. Et moi, donc dans l'éducation nationale, et c'était très rigolo parce que alors il y en a un où j'étais avec mon nom de jeune fille, donc les gens n'ont pas fait le lien, mais à l'autre où il y avait les deux Zara là, ben, côte à côte, ça interpellait beaucoup les gens. Donc c'est quand même aussi une histoire de famille. Hein, donc mon fils m'a dit, mais moi si je veux être prof de lettres, dans mon cursus il y a ça aussi. Pourquoi les lettres et pas l'histoire? Moi, si je veux être prof de lettres, c'est un peu grâce à toi, parce que mon goût pour la lecture, des choses comme ça, c'est à toi que je le dois. Donc,
vous avez transmis votre passion.
Oui, sans doute. Quoique je ne sois pas forcément une grande passionnée. Bon, il y a des livres que je lis plus que d'autres, mais j'ai appris en fait beaucoup en me préparant au CAPES, et même encore aujourd'hui, j'apprends avec mes élèves, et parce que je n'ai pas le choix, je veux bien... Je peux que leur communiquer que ce que je sais, donc j'apprends au fur et à mesure.
Est-ce que c'était pas dur justement de se replonger dans les études, dans la préparation d'un concours?
Si, un peu. Alors les concours, j'avais réussi des concours aussi dans le passé. Ça s'est fait que je suis pas rentrée dans l'administration, mais c'est quelque chose que j'aime, c'est un challenge et j'aime les défis. Mais à 50 ans, c'est quand même différent. Et puis je me rendais compte que j'avais pas cette culture littéraire. Mon fils, il a des milliers de livres, et j'avais pas cette culture, cette passion peut-être qu'il avait. Mais bon, il faut essayer. Sans qui tente rien n'a rien. Et sur Facebook, il y avait notamment un groupe de personnes qui préparaient le CAPES, donc on s'est entraidés. C'est là que j'ai vu que j'étais pas seule à avoir un âge certain, voir un certain âge. Donc ça, on s'est aidés, on s'est boostés aussi les uns les autres comme ça, et voilà.
Vous avez réussi le concours.
J'ai réussi le concours et pas trop mal en plus.
Félicitations.
Bon,
parce que j'ai eu quand même Pôle emploi m'a mis un peu des bâtons dans les roues, a pas voulu financer ma formation alors que j'étais, à cause du licenciement économique, dans un système qui faisait que normalement j'avais droit à une formation pendant un an. Et donc du coup, je me suis débrouillée un peu toute seule à la bibliothèque municipale. Ben, un défi supplémentaire, c'était pas grave. Donc on disait, mais pourquoi non, on lui financera pas parce qu'elle veut pas aller au troisième concours qui est qui était différent, qui était effectivement, normalement, j'étais dans ce cadre-là, puisque j'avais travaillé auparavant, mais moi, j'avais besoin de me sentir légitime en tant que prof, et je voulais passer le même concours que les petits jeunes qui avaient Bac plus 4, tant pis. Donc j'ai tenté, et ça a marché.
Alors aujourd'hui, vous êtes professeur de lettres dans un des plus grands collèges de Grenoble.
De l'Académie de Grenoble, oui.
Et alors, est-ce que ça correspond à vos attentes après avoir tant espéré, entre guillemets, tant attendu? Est-ce que par rapport à toutes vos expériences professionnelles, vous sentez qu'il y a un certain accomplissement?
Oui, il y a un certain accomplissement, surtout quand on voit parfois le répondant qu'ont les élèves par rapport à certaines choses. Des fois, je me dis, ah bon, mais qu'est-ce que j'ai fait d'extraordinaire aujourd'hui pour que là, ils soient à fond? Et d'autres fois, bien sûr, faut les tirer, mais bon, c'est aussi la classe d'âge que j'ai les élèves de quatrième. C'est pas forcément le niveau le plus facile, mais...
Vous vous sentez à votre place?
Oui, même si j'ai eu des moments de doute quand même, parce que j'ai été aussi dans un autre établissement que je citerai pas, pour pas faire peur à certains parents, où ça a été très difficile, c'était compliqué, mais c'était comme ça. Il fallait passer aussi par là pour être formé. Un de mes amis me disait, ben voilà, pendant ton stage, c'était la lune de miel. Effectivement, j'ai eu un stage avec vraiment un accompagnement des tutrices formidable. Et là, il me disait, ben voilà, c'est déjà les scènes de ménage qui commencent. C'était très compliqué. Mais c'est utile aussi, les moments plus difficiles, pour rebondir et pour y arriver maintenant.
Eh bien, Véronique, merci. Toutefois, on n'en a pas fini avec vous. On vous garde avec nous. Et avant d'aller plus loin sur votre histoire, on accueille tout de suite en studio Julie et Karine pour un débrief plus.
Là que je parle, le débrief plus.
Karine, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable statistique, c'est bien ça?
Tout à fait.
Et Julie, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur des écoles.
C'est ça.
Et merci en tout cas à toutes les deux d'être avec nous pour ce débrief.
Merci à vous.
Merci.
Alors, mesdames, qu'avez-vous pensé de ce qu'on vient de dire? Est-ce qu'il y a eu quelque chose, une phrase, un mot, une idée qui vous a particulièrement interpellée?
Moi, j'ai bien aimé le dicton qui ne tente rien à rien. Et je pense que oui, en effet, c'est un bon leitmotiv quand on essaye de se remettre en selle ou de changer de voie, en effet, qui ne tente rien à rien.
Parce que c'est votre cas.
Oui.
On va en parler. Et vous, Julie?
Pour ma part, j'ai retenu le fait d'être utile, ce qui est revenu plusieurs fois. Et en effet, c'est quelque chose qui revient quand les gens changent de vie. Il y a un désir derrière ça. Ce n'est pas seulement un coup de tête, mais il y a vraiment quelque chose qui les motive.
Alors, le choix des études, je reviens un petit peu là-dessus. C'est souvent difficile quand on est jeune, je pense, de savoir ce que l'on veut. Vous confirmez ou pas, Julie, je me tourne vers vous. Vous êtes la plus jeune, entre guillemets, mais qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, c'est pas évident quand on est jeune de savoir exactement quoi faire par la suite, ce pourquoi, entre guillemets, on peut être fait. Et parfois, comme Véronique, eh ben, on peut prendre une voie parce que, ben, par défaut, on n'irait pas ailleurs. Et on peut se retrouver dans un cursus qui, au final, ne nous convient pas. Et même si on peut réussir dans ce cursus, ça a été mon cas également, eh bien, on peut se poser encore plus de questions en se disant « mais je vais pas bien m'y sentir. Ok, j'y arrive, mais si je dois faire ça toute ma vie, ça va être très compliqué. »
Vous avez fait des études de quoi avant de vous lancer dans l'enseignement ?
Alors, j'avais fait une prépa pour faire quelque chose de général. Et en fait, ce cursus général m'a quand même fait entrer en école d'ingénieur. Et j'ai eu un diplôme d'ingénierie en hydraulique, mais pour lequel je n'étais pas du tout faite. Et j'ai décidé, à la fin de mon diplôme, de tout arrêter et de chercher quelque chose d'autre.
Qui avait plus de sens pour vous.
Exactement.
Alors, ça arrive de se tromper, c'est pas mal en soi, n'est-ce pas?
Non,
c'est vrai que quand on est jeune, on n'a pas toujours conscience de ce que ce métier-là peut impliquer. Julie, vous parliez d'être ingénieur hydraulique. Voilà,
c'est quand même précis,
vous avez
hein.
vu que c'était peut-être pas votre vocation. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Karine?
Moi, je pense que c'est vrai que quand on est jeune, et puis si on n'a pas non plus de problèmes particuliers ou de dégoût pour une matière en particulier, c'est vraiment très difficile de savoir vers quoi se destiner. On est dans un système qui, malgré tout, forme beaucoup de gens généralistes. Donc, on se retrouve facilement sur les bancs de la fac. Et puis, les semestres s'enchaînent et finalement, on ne sait pas trop vers quoi on va arriver. Donc, c'est normal, je pense, aussi de se chercher. Et puis, c'est normal de peut-être commencer une carrière et finalement se rendre compte que on a d'autres occasions et la possibilité de changer en cours de route, ça me paraît assez bien dans l'air du temps et correspondre aussi à notre structure éducative en fait.
Parce que dans votre cas, alors c'était l'inverse pour le coup. Hein.
Oui,
je crois
alors,
que vous avez commencé par l'enseignement.
Tout à fait. Moi, je suis issue d'une famille où il y a beaucoup d'enseignants. Mes deux parents sont enseignants, donc j'ai baigné là-dedans et c'était un métier qui me paraissait très bien, intéressant. J'avais donné des cours particuliers pendant mes études et voilà, voir le déclic d'un élève quand on lui explique quelque chose, je trouve qu'il n'y a rien qui remplace ça. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors j'ai été, votre fille, je pense, vous disiez Véronique, j'ai été contractuelle plutôt à la fac du coup, mais j'ai aussi fait des remplacements dans des collèges, dans des lycées, et ça me plaisait. Et j'ai tenté les concours de l'enseignement, mais je ne les ai jamais réussi. Et donc, au bout d'un moment, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas ça, la voie dans laquelle il fallait que j'aille. Et donc, j'ai changé, j'ai refait un master et je suis devenue responsable statistique.
Alors, les changements, c'est un petit peu dans l'air du temps. Hein. On change de boîte, on change de métier, on cumule les expériences. Est-ce que c'est plutôt un enrichissement personnel, finalement, toutes ces expériences, ou plutôt signe d'une précarité de l'emploi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Véronique, vous pouvez y réagir aussi. Hein.
D'une manière générale, si je ne parle pas de moi en particulier, je pense que, effectivement, c'est dans l'air du temps, mais c'est aussi souvent contraint. Il y a encore 40 ans, on pouvait être 40 ans dans la même entreprise. Mmh, c'est plus possible.
Fait, ouais.
La situation économique, la vitesse à laquelle tout simplement des changements fait que on peut pas rester dans la même entreprise. C'est rarissime.
C'est rare, ouais.
Est-ce que c'est intéressant ? Je suis pas sûre. Parce qu'au moins, dans l'enseignement, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on peut aussi changer d'établissement. Pas forcément où on veut, quand on veut, mais c'est quelque chose qui est possible. Et on change d'élève pratiquement tous les ans, donc ça aussi c'est bien, on ne reste pas dans la monotonie.
Et puis tous ces changements, je crois que vous disiez aussi hors micro, que finalement on ne les regrette pas, enfin vous en tout cas, vous ne les avez pas regrettés, toutes ces expériences ?
Non, parce que chaque expérience nous enrichit, même si c'est quelque chose effectivement qu'on n'avait pas choisi dans un premier temps, il y a toujours quelque chose qu'on garde, qu'on reçoit et qui nous est utile plus tard.
Alors Véronique, vous disiez que souvent on a envie de changer parce que voilà, on est dans une société où tout va très vite. Il y a une question, ou plutôt un aspect qui revient très régulièrement, c'est la question du sens. Du sens dans ce que l'on fait, du sens à l'ouvrage, se sentir utile et à sa place. On en parlait avec vous tout à l'heure. Alors ça ne se résume peut-être pas à un emploi, on va en reparler d'ici quelques minutes, mais on peut dire que ça y contribue fortement. Qu'est-ce que vous en pensez ? Julie, je me tourne vers vous. La question du sens.
C'est vrai que les personnes parfois font quelque chose, on peut faire quelque chose sans savoir exactement pourquoi. Et arrive un moment où la vie fait que on va s'interroger. Parfois, ça va être une situation familiale, une situation économique. Les fondements qu'on croyait être des fondements, en fait, peuvent un petit peu, en quelque sorte, basculer. Et alors là, ça va remettre en question des choses qui étaient stables jusqu'à présent. Et on va se poser la question de pourquoi, en fait, je fais ça ? Pourquoi je suis là, au juste ? Et en se posant cette question, on se dit, mais est-ce que au final, je suis fait pour ça ? Est-ce que ça me convient ? Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je m'épanouis là où je suis ? Il y a beaucoup de gens aussi qui cherchent une forme d'épanouissement parce qu'ils ne se sentent pas bien non plus eux-mêmes et ont besoin, eh bien, de changements véritables, oui.
Et vous, Karine, se sentir utile et à sa place, vous en pensez quoi dans le monde professionnel ?
Je pense qu'on ne peut pas durer dans un emploi si on n'y trouve pas son compte. Et ce n'est pas juste un nombre de zéros qui tombe tous les mois sur, son compte bancaire. Il faut évidemment qu'il y ait une satisfaction ou qu'il y ait un sentiment alors, d'utilité. Après, tout le monde ne met pas forcément le curseur au même endroit. Mais oui, il faut qu'il y ait du sens. Et moi, je sais que quand j'ai changé d'orientation, je me suis posé la question parce que voilà, passer de l'enseignement au monde de l'entreprise privée, c'est pas exactement et même pas du tout la même chose. Mais je me suis dit, mais est-ce que je vais quand même m'y retrouver, en fait ? Est-ce que ça va aussi coller avec mon identité ? Et donc, ouais, je me suis interrogée et je me suis dit qu'en fait, ce que j'aimais, c'est expliquer, comprendre comment fonctionnent les choses. Donc, je peux le faire avec quelqu'un en face à face, dans une relation enseignant-élève, mais je peux aussi le faire avec des collègues, avec des clients, en leur expliquant des phénomènes que eux n'ont peut-être pas vus. Et donc voilà, ça m'a, j'ai trouvé du sens aussi dans cette réorientation-là.
Et puis on peut expliquer à son responsable aussi. Tout parfois, ça arrive. Karine, merci. Julie, merci beaucoup pour votre intervention dans cette émission. Pour ce Débrief Plus. Merci, au revoir. Et puis Véronique, on reste avec vous pour la suite de cette émission. On a beaucoup parlé de sens. Il va en être question juste après notre pause musicale.
On s'écoute tout de suite Edge of My Seat de Toby Mac et puis on se retrouve juste après. Well, I thought that I had seen most everything. And if jaded was a people, I'd be the king. So cold to war.
Là que tu parles, Sophie et Lauriane.
Vous êtes sur Essentiel et aujourd'hui dans l'Actu Parle, c'est l'heure du changement, Lauriane.
Changer de vie, changer de métier, beaucoup en rêve, pour le meilleur ou pour le pire. Véronique est toujours avec nous en studio. Vous nous avez parlé de votre parcours professionnel qui vous a finalement conduit à devenir professeur de lettres modernes à l'âge de 51 ans, on le souligne encore.
Oui, tout à fait.
Un accomplissement pour vous, mais votre changement de vie essentiel ne se résume pas à une reconversion professionnelle, mais plutôt à une conversion. Véronique, votre enfance a été marquée par le vide et la dépression. Est-ce que vous pouvez nous en parler ?
Oui, alors effectivement, l'enfance, même avant même la conception, déjà il y avait des choses un peu compliquées dans la vie de ma maman. Donc j'ai l'habitude, moi, quand je raconte mon histoire, de dire cette chose qui est dans la Bible, dans l'Ecclésiaste, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et c'est vraiment ce qui se passe dans ma vie, notamment aussi avec ce changement professionnel. Hein. C'est un tout, notre vie c'est un tout. Et effectivement, dans notre vie, on a besoin de sens. Et pour commencer, ma vie, c'était pas tout à fait ça, puisque j'ai pas été conçue dans l'amour. Je suis même pas le fruit du hasard d'une rencontre passagère, mais je suis le résultat d'une agression. Un homme, un jour, a peut-être trouvé bon de se servir d'une femme. Voilà, donc on va pas rentrer dans les détails. D'abord, je les ai pas forcément, et même si je les ai, ils concernent que moi et ma maman. Mais voilà, donc... Bien évidemment, j'ai pas su ça tout de suite. J'ai été au courant des circonstances de ma conception. J'avais peut-être 12-13 ans, ce qui était déjà très jeune. Mais j'ai grandi, effectivement, sans papa. Et les circonstances de cette naissance et d'autres choses aussi ont conduit ma maman, effectivement, dans la dépression. Une dépression profonde. J'ai grandi sans ce père. Et ma maman qui était dépressive, elle a eu des accidents de voiture, hein, parce que, elle n'était pas forcément dans son état normal. Pourquoi je parle de ça? C'est parce que le chef d'atelier de chez Citroën à l'époque était chrétien. Et un chrétien fervent qui, quand il la voyait arriver régulièrement, encore un accident, a fini par lui parler de Dieu, lui parler de Jésus, lui dire que, sa situation pouvait changer. Et il nous a emmenés toutes les deux à des réunions d'évangélisation. Et donc c'était en 73, j'avais 7 ans. Et c'est là que pour la première fois j'ai entendu parler de Dieu.
Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Qu'est-ce que ces mots ont pu vous apporter à vous concrètement?
Ce que ça m'a apporté concrètement, déjà d'une part ma maman, sur un acte de foi, a jeté tous ses médicaments au vide-ordure. Et il n'y a pas eu de dépendance, de choses comme ça. Alors par contre, j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment avoir une conviction pour faire ça. Hein, on est chrétien, mais on n'est pas fou. S'il y a des médecins, il y a des raisons. Et voilà, il faut faire les choses sérieusement. Mais pour elle, ça a été une conviction. Elle a tout jeté. C'est pas pour ça qu'elle a eu forcément une conversion radicale. Non. Elle était ce qu'on appelle une sympathisante. Donc à chaque fois qu'il y avait une mission d'évangélisation, on y allait, voilà. En tout cas, j'ai grandi, moi, quand même, avec une Bible que cet homme m'avait donnée. Et j'allais régulièrement plonger mes regards dans la parole de Dieu quand j'allais pas bien. Parce que j'allais pas bien, quand même, parfois. Jusque même avoir des envies de mort toute jeune. Je me souviens, à l'école, j'ai écrit un mot que je voulais mourir. Vite caché, vite jeté à la poubelle. Et la professeure des écoles, comme quoi c'est quand même un métier utile, a vu, alors à l'époque c'était l'institutrice, hein, a vu ce mot, a reconnu mon écriture, est allée frapper à la porte, et dire ma maman, voilà, j'ai trouvé ça, et bien sûr j'ai menti, non, c'est pas moi. Mais en tout cas, ça m'a arrêtée dans mes projets. Donc ma mère était pas, je pense, a pas eu conscience de ce désarroi, parce qu'elle-même était pas toujours bien, et voilà. Mais il était là, il existait. J'ai grandi comme ça, et un jour, lorsque j'avais 14 ans à peu près, il y a eu donc une mission d'évangélisation des tziganes, qui donc ont monté un chapiteau à Annecy, et nous y sommes allés. Et ce jour-là, à l'appel, j'ai levé la main, je me suis levée, et voilà, je voulais aller plus loin avec Dieu. On parlait tout à l'heure d'un sens donné à la vie, et effectivement, ma vie, je crois que sans Dieu, elle n'avait pas vraiment de sens, même si j'ai grandi en me construisant quand même un peu avec lui, mais c'était de loin. Et j'avais besoin d'une relation proche, et j'avais toujours besoin d'un père, que j'ai trouvé en Dieu.
Alors, tout à l'heure, on parlait d'âge. Vous avez passé votre CAPES à 51 ans, hein, jamais trop tard. Inversement, là, vous aviez 14 ans. Certains diraient que 14 ans. Mmh. Est-ce que ce n'est pas trop tôt pour ce changement-là? Est-ce qu'on ne passe pas, comme certains disent, à côté de sa jeunesse?
Alors non, on ne passe pas à côté de sa jeunesse, ça c'est certain, même si parfois on a l'impression d'être différent. Parce que les collègues d'école, ils ont des relations amoureuses, des choses comme ça. Non, au contraire, on est préservé, je pense, par Dieu. Par contre, bon, j'avais 14 ans quand j'ai fait ce geste, mais je me suis engagée réellement. J'avais 16 ans quand je suis passée dans les eaux du baptême. Et le contexte où j'étais faisait que j'avais peut-être pas forcément tout compris quand je me suis fait baptiser non plus. Et j'avais encore besoin de changer aussi. Et donc, le fait de se lever, c'est une chose. Le fait de se repentir, c'est une autre chose. Le fait de réaliser qu'on est pécheur, c'est encore autre chose. Et ça, c'était tout un cheminement. Donc, à 14 ans, effectivement, j'ai dit, de toute façon, sans Dieu, j'y arriverai pas.
Qu'est-ce que ça a apporté concrètement dans votre vie, le fait d'accepter Jésus? On parlait de sens tout à l'heure. Est-ce que ça donne un sens à votre vie?
Oui, ça donne un sens dans la mesure où, comme je disais en introduction, j'ai réalisé que même si c'était des circonstances dramatiques dans lesquelles j'étais née, j'étais malgré tout toujours pas le fruit du hasard. Voilà, parce que Dieu m'avait voulu. Même dans ces circonstances-là, j'ai une identité et cette identité, elle est en Christ, elle est en Dieu. Et pour moi, donc j'ai compris beaucoup plus tard, c'était quelque chose de vraiment de primordial pour moi et je pense pour chaque enfant de Dieu de réaliser qu'on a une identité et qu'elle est en Christ et en Dieu et que voilà, non seulement j'ai un père, mais j'ai des frères et sœurs, enfin j'ai une famille formidable et certainement meilleure que ma famille charnelle. Finalement.
Alors, 7 Français sur 10 rêvent de changer de vie, on l'a dit. Véronique, alors qu'on arrive déjà à la fin de cette interview, au vu de votre expérience, qu'aimeriez-vous dire à ces Français?
Changez-la, votre vie, mais pas tout seul, parce que tout seul, par vos propres forces, vous n'y arriverez pas. Il s'agit de s'approcher de Dieu, de réaliser qui on est, du changement qui est nécessaire dans notre vie. Vous parliez tout à l'heure de conversion. En fait, c'est un demi-tour, c'est un changement radical. Et il faut le faire sans hésiter parce que justement, oui, effectivement, ça donne un sens à la vie et on ne reste pas sans but, même si professionnellement, peut-être que parfois, on peut se trouver... donc en tout cas, avant que moi je change, il y avait des moments où je me disais, mais qu'est-ce que tu fais là? Même si j'étais utile pour ces femmes. Mais il y avait d'autres choses qui faisaient que c'était pas toujours évident. Même si professionnellement, voilà, mais dans la vie personnelle, il y a rien de mieux, quoi. J'ai construit une famille par la grâce de Dieu. Il nous a montré vraiment d'une manière très concrète qu'on était fait l'un pour l'autre. Enfin, etc. J'ai des enfants magnifiques et voilà. Enfin, tout est bien dans la meilleure des mondes.
Alors,
on parlait de sens tout à l'heure. Est-ce que vous auriez justement, pour finir, une parole pleine de sens, un verset, un extrait de la Bible qui vous tient particulièrement à cœur?
Oui, donc il y a ce verset dans Éphésiens qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Et franchement, on parlait d'utilité tout à l'heure et l'utilité, c'est aussi Dieu qui la donne avec ses œuvres qu'il a préparées pour nous.
Eh bien, merci beaucoup, Véronique. Merci pour ce témoignage, pour ces moments passés avec nous. On vous souhaite bien sûr une très belle continuation et peut-être à bientôt sur Essentiel.
Oui, pourquoi pas.
Merci, à bientôt, au revoir. Merci.
Au revoir.
Là que je parle, Sophie et Lauriane.
Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Pour nous suivre, ça se passe sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter ou encore Instagram. Et pour écouter ou alors partager cette émission, rendez-vous sur notre site internet essentielradio.com ou alors sur notre appli.
Et n'hésitez pas à faire un tour aussi sur essentieltv.fr, musique, vidéo et plein d'autres surprises qui ne manqueront pas d'éveiller votre foi et répondre à vos questions.
Une dernière adresse à noter, soutenir.essentielradio.com pour atteindre ensemble les 100% de notre objectif et nous aider à finir nos gros travaux. On remercie d'ailleurs tous ceux qui y ont déjà participé. On vous souhaite une belle semaine et puis on vous dit à très vite.
Salut.
L'Actu parle sur Essentiel Radio. Retrouve tous nos programmes sur essentielradio.com.